This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte the wear en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères. Une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Nous avons commencé cette semaine consacrée à l'année 1968 par évoquer les événements de mai en France et dans le monde. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce fut un mouvement international de la jeunesse aspirant à vivre une autre forme de société, moins rigide, plus émancipée de toutes les formes d'ordre moral. Ces mouvements seront partout réprimés, soit par la force, soit par les urnes, comme en France pour les urnes et en Tchécoslovaquie pour la force. Le retour des vieilles lunes ne se fit pas attendre, mais les germes d'une nouvelle sensibilité sociétale allaient se propager. De nouveaux droits, mais aussi des responsabilités nouvelles allaient voir le jour. Écologie, féminisme, formation, autogestion. Des mouvements surgiront partout, de manière plus parcellaire, dans les années 70 et concrétiseront ce qui n'était qu'embryonnaire. En 1968, la dimension du rêve a envahi le monde de la politique sclérosée, celui du syndicalisme, celui du monde associatif, jusqu'au monde culturel. Deux exemples des effets de mai 68, le festival de Cannes, dans la foulée de l'affaire de la Cinémathèque, et celui d'Avignon.
Le 6 février 68, le conseil d'administration de la Cinémathèque française, sous la pression des représentants de l'État et sous pression directe d'André Malraux, avait relevé Henri Langlois de ses fonctions de secrétaire général de la Cinémathèque pour remplacer la présidence, la direction artistique par des fonctionnaires sous prétexte de remédier à l'administration désastreuse de Langlois. Administration qui était en effet assez fantaisiste, mais qui était également due à un certain nombre de, à un manque, à une pénurie assez flagrante. Très rapidement, il y a eu des réactions extrêmement passionnées et violentes, et donc une semaine après ce renvoi, une manifestation devant Chaillot, des télégrammes de réalisateurs du monde entier interdisant de présenter leurs films dans la cinémathèque de l'État. La cinémathèque, ce qu'on appelait la cinémathèque Barbin, du nom du délégué général qui avait été nommé. Et cette manifestation, donc, avec des cinéastes, Truffaut en premier, qui passait 3-4 heures par jour à travailler pour le comité de défense de la cinémathèque. Manifestation en fin d'après-midi, qui se termine de manière assez invraisemblable par une charge de police. Ici, Delahaye, Michel Delahaye, André Labarthe portent la banderole. Cette manifestation a été à la fois un moment assez fort où tout le monde se retrouvait sur la même base et, voilà Léo, Nicolas Rey entre Marcel Carnet et Roland Le Saffre, et un moment assez violent où les CRS ont chargé Robert Benayoun de positif, et ce qui a donné à tout le monde le sentiment que l'État, que le pouvoir ne savait absolument pas quoi faire devant la moindre opposition. Aussi Daniel Boulanger, Belmondo, Lebovici, Lotte Eisner et à gauche Marie Epstein, qui étaient deux des principales collaboratrices de Langlois et qui avaient été licenciées sans préavis, ainsi que Mary Merson, sa principale collaboratrice. Donc Marie-Josée Natt, Barbe Schroeder. Voilà Delahaye avec Jean Eustache. Encore Carnet, Nicolas Rey, qui était le cinéaste américain à Paris et qui était qui a été très, très véhément dans sa défense de Langlois, qui a dit des choses assez, assez rares. Ici Pierre Caste avec Alain René. Encore Truffaut. Là, on ne voit pas grand-chose de cette charge de police, qui était une chose assez invraisemblable, une charge de CRS contre des cinéastes, des comédiens. Enfin, c'est un truc assez, assez étonnant, et je pense que c'est ce qui a rendu la chose très tendue. Sans ça, ça aurait peut-être été une défense un peu folklorique. Et on a vu que c'était un pouvoir qui était absolument incapable de réagir à aucune opposition autrement que par la violence. Bon, c'était pas une violence comparable à la guerre d'Algérie, c'était pas... Maurice Papon était plus préfet. Voilà, alors un sit-in après la charge de la police. Mais il y a eu des poignets cassés, il y a eu des gens piétinés, comme Tavernier, poignets cassés, comme Anne-Marie Roy. C'était quand même assez étonnant pour la plupart des gens qui étaient là. Et le sentiment de quelque chose qui était un petit peu une réaction enfantine, on nous prend ce qui nous a formés, ce qui a été tout pour nous, a fait place au sentiment que le ministre de la Culture n'avait aucun sens de ce qu'était Langlois, aucun sens de la portée symbolique et très concrète de Langlois auprès des cinéastes du monde entier, auprès en particulier des cinéastes de la Nouvelle Vague. Mais la présence de Nicolas Rey, le fait que Fritz Lang et Chaplin étaient parmi les premiers à télégraphier, et Dreyer étaient parmi les premiers à télégraphier leur soutien à Langlois, leur interdiction de montrer leurs films, indiquait qu'il s'agissait, que ça allait un peu au-delà du pittoresque d'un incident culturel.
Voilà, c'est un témoignage de Bernard Zenschitz, historien du cinéma, qui commentait les quelques images que l'on pouvait avoir de cette affaire de la Cinémathèque. Alors, il faut rappeler que la Cinémathèque avait donc été créée par Henri Langlois lui-même, sous la forme d'un relatif bénévolat, menait ses activités dans le cadre du Palais de Chaillot, dans le sous-sol très exactement du Palais de Chaillot, où la Cinémathèque faisait une diffusion quotidienne de tous les films que recélait le fond de Langlois. Il se trouve que ça n'a pas été une initiative institutionnelle, puisque Langlois était un ami de bon nombre de cinéastes et qu'il récupérait des chutes de montage. Au début, c'était vraiment très embryonnaire. Et puis, au fil du temps, de très, très grands cinéastes lui ont fait confiance et lui ont confié de manière gratuite des copies de leurs films. Et c'est ainsi que, peu à peu, la Cinémathèque a créé son fonds. Alors, en 1968, André Malraux, ne tenant pas vraiment compte de la dimension personnelle de cette Cinémathèque, incarnée par Langlois, certes de façon un peu folklorique, a donc essayé de mettre la main sur ce petit trésor culturel. Et il l'a fait sans ménagement. Et le témoignage que l'on vient d'entendre montre que les choses se sont faites de façon violente, puisqu'on n'avait jamais vu une compagnie de CRS chargée des cinéastes ou des gens du monde du cinéma. Alors ça déclenchera une mobilisation très importante, et le monde du cinéma va donc s'interroger, s'intéresser aussi à ce qui va se passer en mai, et cette mobilisation va se prolonger jusqu'au moment du Festival de Cannes, et là, les gens qui avaient été mobilisés par la Cinémathèque vont aussi se mobiliser pour le Festival de Cannes et vont tenter et réussir d'arrêter le déroulement du festival à Cannes sur place.
Rares étaient les invités de M. Barclay dans la foule qui se dirigeait le samedi matin vers la salle Jean Cocteau, donc la petite salle du palais, à la conférence de presse organisée par le comité de défense de la Cinémathèque.
Alors je vais vous lire une motion qui a été rédigée cette nuit à l'école de Vaugirard.
C'est François Truffaut qui parle.
Par un ensemble de cinéastes et techniciens français. L'Assemblée d'information et d'action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1000 professionnels réunis à l'école nationale de photographie et de cinématographie de la rue Vaugirard, investie par ses élèves depuis le 15 mai 1968, demande à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes, de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers par les moyens qui leur sont propres à la continuation du festival afin de montrer leur solidarité avec les travailleurs et étudiants en grève, de protester contre la répression policière et d'exprimer par là leur volonté de contester le pouvoir police et les structures actuelles de l'industrie cinématographique. C'est signé les États généraux du cinéma français.
Milos Forman, chèque présenté au feu les pompiers.
Tous les problèmes, je comprends une chose qu'il faut que je retire mon film de compétition.
Bravo! Entre-temps, Alain René avait pu téléphoner pour signaler que bloqué par la grève à Lyon, il retournait à Paris avec son film.
Passe la parole à Claude Lelouch.
Bien, je retire les Gauloises bleues et très chaud en France.
Bravo!
Permanent. Un comité de réforme du cinéma, tout de
oui,
suite.
Moi je ne sais pas.
Un comité immédiat.
Ce que je crois quand même, c'est que tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés. Mais il faut que les radios au moins annoncent que le festival de Cannes est arrêté.
Absolument.
Si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise. Parce que vu de l'extérieur, le festival de Cannes, c'est quand même... Vous savez ce que c'est, voilà. C'est la réception de cette nuit de M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut donner, il faut que les gens comprennent bien que ça s'est arrêté.
Ça, c'est
alors,
vrai.
La oui, forme oui. est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment.
Vous voulez arrêter le festival ? Arrêtez le festival, mais si vous voulez continuer les projections, qui saura que le festival s'est arrêté ? Déjà, très peu de gens sauront en France que le festival était arrêté, parce que les gens s'en foutent du festival.
La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule.
Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener les autres ici.
Vous avez une mitraillette ?
L'assistance alors va décider de quitter la salle Jean Cocteau et d'aller occuper la grande salle où la foule devient de plus en plus nombreuse.
Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer. À voir des films, pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible, et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France.
Je souhaite que le festival s'arrête.
Non,
oui, mais... Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans.
Vous êtes parlez de rien, madame. Je voudrais savoir si vous, vous allez en vivre.
Nous avons décidé.
Silence.
Que... Nous avons décidé que le comité de défense de la Cinémathèque française va s'occuper désormais de défendre les intérêts des artistes au Festival de Cannes, si bien que cela me permet de vous donner les noms des gens à qui les autorités du Festival de Cannes ou à qui les journalistes du Festival de Cannes, les délégués des pays étrangers, pourront avoir affaire pour tout renseignement concernant notre action au Festival de Cannes pendant les 8 jours qui restent.
Voilà, donc le document se poursuit sur ce qui n'a cessé de se passer, c'est-à-dire des assemblées générales successives et qui déboucheront finalement sur l'annulation pure et simple du Festival de Cannes. Alors dans ce document, vous entendiez Milos Forman, qui est cinéaste tchèque qui n'avait pas encore émigré aux États-Unis, Roman Polanski, Claude Lelouch, en tant que producteur, retirant les Gauloises bleues de Michel Cournot, et Jean-Luc Godard qui clamait la solidarité entre les cinéastes, les étudiants et les ouvriers. Pendant ce temps, pendant le Festival de Cannes, eh bien, un cinéaste italien, Michelangelo Antonioni, tournait un film qui allait être... qui allait obtenir lui-même l'année suivante la Palme d'Or. Il s'agissait de Blow Up avec, pour la musique, la composition d'un musicien de jazz, Herbie Hancock. Tourné en Angleterre, ce film de Michelangelo Antonioni, Blow Up, donc sur cette idée que le travail du photographe qui consiste à s'approcher au plus près de la réalité, mais plus près il est et plus la vérité s'éloigne, ce qui est en fait le paradoxe de ce film tout à fait remarquable. Alors un autre festival va subir aussi les effets de mai 68, et bien c'est le Festival d'Avignon. Ce qui va se passer est assez simple, c'est que Jean Villard, toujours directeur du Festival d'Avignon depuis environ une vingtaine d'années, a invité cette année-là, curieusement, une compagnie américaine appelée Living Theatre. Et le Living Theatre va lui faire la surprise d'arriver un mois avant le début du festival, ce qui est assez rare pour les compagnies qui sont programmées dans le cadre du festival. Ils vont s'installer et ils vont peu à peu investir la ville... déambuler, créer des petits événements, faire d'une sorte d'activisme théâtral qui fait que peu à peu, il va se passer, les choses vont se passer avec une certaine difficulté. Et au moment du mois de mai, donc, ils sont là, présents dans la ville, puis en juin, avant le début du festival en juillet, et de par leur présence un peu diffuse, peu à peu, les Avignonnais vont mal vivre cette situation. Et alors, il faut dire qu'ils ressemblent à des hippies, comme vont le dire les Avignonnais. Ils ont des pratiques, ils fument pas mal, pas toujours des cigarettes. Et donc, ils déambulent, mais certaines scènes sont... quelquefois déshabillés, quelquefois dans des positions qui laissent peu de doute sur le caractère un peu subversif de ce qui se passe. Et on va interdire, lors du début du festival, l'un de leurs spectacles va être interdit. Et ça va déclencher, évidemment, ça va faire une coupure dans le public. Il va y avoir les pour et il va y avoir les contre. Et les choses vont mal tourner.
Hier soir, à Avignon, une manifestation s'est déroulée à la suite d'un arrêté préfectoral interdisant la représentation d'une pièce à Villeneuve-les-Avignon. Après avoir écouté Jean-Jacques Lebel, bien connu dans les milieux du théâtre, le meeting donna lieu à des prises de position relatives au Festival d'Avignon. Les jeunes gens ont parcouru ensuite les principales artères de la Cité des Papes en scandant des slogans et en chantant l'International. Alors que rien ne le laissait prévoir, des incidents entre manifestants et forces de l'ordre éclatèrent. Quelques heurts entre manifestants et avignonnais se sont également produits, la population n'ayant pas vu d'un très bon œil des éléments extérieurs au département tenter de jeter le discrédit sur le festival d'Avignon.
Alors le festival ne sera pas annulé, lui, Jean Villard va tenir bon la barre, bien que beaucoup vont demander sa démission, les choses vont être un petit peu tendues, l'édition 68 va se dérouler, tant bien que mal, et l'année suivante, eh bien Jean Villard va expliquer qu'il a eu quelques difficultés, que un festival, selon ses propres termes, un festival qui ne se renouvelle pas a tendance à se scléroser, voire même à mourir. Les choses ne seront plus tout à fait pareilles et probablement que l'année 68 présente une sorte de coupure, de hiatus dans le déroulement, disons, naturel de ce grand festival de théâtre. Tous ces événements, que ce soit dans les milieux culturels, dans les milieux sociaux en général, traduisent ce que je disais au début, c'est-à-dire une aspiration à autre chose. Alors dans une émission qui ne date pas de cette époque-là, mais plus récente, Daniel Cohn-Bendit essaie d'expliquer ce qui était à l'origine de ces événements, de ces mouvements, et il parle d'une société de plomb.
Il y a eu 68, si on prend mai-juin, mais juin était quand même l'explosion qui a fait exploser les groupuscules traditionnels. Et puis il y a l'après-mai juin qui a été une reprise en main du traditionnalisme politique. Ce qui s'est passé au niveau de l'émotion, qui a quand même porté après le gauchisme, c'est en 68, en mai-juin. Pourquoi ça n'a pas été prévu? Parce que personne n'arrivait effectivement à formuler, à sentir l'émotion sous-jacente, le besoin d'émotion qui existait dans la société française. C'était une société fermée, une société de plomb, et tout d'un coup, ça explose et on ressent des tas de choses. Bon, ces choses s'expriment, balbutient pendant 2 mois. En fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit on a envie de parler. Beaucoup plus, on ne dit pas de toutes les manières, on a envie de vivre. Et puis après, il y a la langue qui retrouve son pouvoir, le langage, et le langage, bah, c'est le langage qu'on a appris avant. On n'invente pas.
Langage codé.
Un langage codé de la société et de qui fait partie de cette société, le communisme, le gauchisme, l'histoire de la guerre d'Algérie, tous ces phénomènes qui réintègrent petit à petit l'univers gauchiste. Mais en même temps, comme il y a eu l'émotion de 68, l'univers gauchiste est un va-et-vient permanent entre cette folie émotive, émotionnelle, enfin cette folie dans le sens positif du terme, ce besoin d'avenir et ce langage codé.
Ce ne sont pas des enfants.
Un musicien américain, un jeune musicien, va incarner une sorte de renouvellement du jazz à cette année-là. Il s'agit de Charles Lloyd. Il va incarner un renouvellement parce qu'à la fois, il est une sorte d'émule de John Coltrane. Charles Lloyd est blanc, lui. Et en même temps, il va intégrer la fascination que cette année-là et les années qui ont précédé exercent le monde asiatique et notamment l'Inde. Et donc, on va avoir une sorte de un jazz un petit peu comme il l'a été chez Coltrane, un jazz très influencé par des modes orientaux. Et d'ailleurs, donc Charles Lloyd va venir en 68 en Europe. Il va donner une série de concerts. Et je vous propose d'écouter un morceau dont le titre est emblématique, Karma.
Thank you.
Karma, enregistré par le quartet de Charles Lloyd, saxophone ténor, en tournée en Europe, en compagnie de, vous allez voir que c'est un quartet de luxe, Keith Jarrett au piano, Cecil McBee à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie. Enregistré à Oslo, en Norvège, cette année-là, en 1968. Voilà, ainsi s'achève cette semaine consacrée à 1968. La semaine prochaine, une autre année, une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.